Bonjour à tous. J'ai vécu un moment de stress assez fort ce matin avant de venir. Et l'un d'entre eux, c'était qu'une de nos voitures était tombée en panne. Marie avait laissé la clé dans le contact. Donc il y a eu c'était pas simple à travailler ensemble, en tout cas ce matin, à ce propos-là. Marie devait partir à l'hôpital. Elle était déjà en retard. Donc voilà, vous imaginez un peu le stress du couple. Et puis, elle me fait des reproches sur la voiture qui n'est pas propre. Bon, je lui dis, c'est pas le moment de me faire des reproches maintenant. Bon, voilà. Hein. Et puis, bon, finalement, les choses se sont calmées. Et puis, j'en reçois un coup de téléphone d'un voisin qui me dit, écoutez, docteur, voilà, je suis en train de vous chercher. Je sais bien que bon, je vous appelle maintenant, c'est un petit peu c'est dimanche, mais je viens me donner un coup de tronçonneuse, il y a du sang partout. Alors je dis, oh là là. Alors je garde mon calme, j'ai la voiture qui est en panne, j'ai ce gars qui m'appelle et probablement un voisin qui me connaisse, donc qui me disent bon, moi, je vais devoir y aller. J'ai l'exhortation préparée, bon, voilà, vraiment le stress. Et puis j'apprends finalement que cette personne avait été relativement calme au téléphone. J'ai dit, bon, c'est bien, elle est contenue malgré ses plaies multiples qu'elle me décrivait avec la tronçonneuse. Et finalement, j'apprends que c'était Anderson qui m'appelait pour me demander simplement le verset du jour. Alors, donc j'avais du mal à retrouver mes esprits. Et puis je savais de quoi je vais vous parler, mais... Je vais vous parler de cette histoire de Lazare et le riche, et je vous dis quel est le verset. Et finalement, j'ai pensé à Matthieu chapitre 5, versets 3 et 4, qui est les premières ces phrases de Jésus qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et pendant que je préparais les textes, en fait, ce texte est venu parce que bon, j'aime bien prendre les textes qui sont proposés. Et je me réjouis d'avance de pouvoir méditer sur eux parce que je ne sais pas comment ça va tomber, quel texte il va y avoir. Donc il y a une espèce d'excitation à savoir quels sont les quatre textes qui sont choisis. Et c'est vraiment un moment pour moi qui est vraiment agréable de pouvoir partager avec vous ces textes. Et souvent, ça tombe bien. Parce que la parole de Dieu est vivante et qu'elle nous parle à chaque fois. Et là, ça va être une parole qui va nous interpeller, mais quelque part, on peut déjà se être content parce que dans quelques temps, cette église va être dans l'accueil. Et ça, c'est quelque chose de bien. L'église dans son ensemble va accueillir des jeunes qui dorment dehors. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des membres de cette église qui vont se coordonner autour de Jacques Rémy pour passer des nuits avec eux. Donc là, je pense qu'on est dans le bon sens en faisant ça, et ce sera que des versets qui vont nous encourager à participer à cette action et puis à aller plus loin dans nos vies à chacun. Nous sommes toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un. Je me rappelle un jour, voyageant en voilier, vous imaginez, un très beau voilier, et on arrive dans le port de Porto Cervo, en Sardaigne. Et là, on avait l'impression d'être des pauvres par rapport à ce qu'on voyait autour de nous. Et la taille des bateaux, de gens hyper riches, hein, les gens les plus riches vont dans ce port et on voulait voir ce que c'était. Et on s'est senti comme avec une toute petite barque, alors que c'était un beau voilier, néanmoins, mais on se sentait là comme des petits. On était certainement les petits et ceux qu'on pouvait mépriser par rapport au yacht qui était là autour de nous, qui était absolument extraordinaire, avec des hélicoptères posés dessus, avec, vous imaginez, enfin, le luxe incroyable. On va lire ce premier texte dans le livre d'Amos. Ainsi parle l'Éternel, c'est le chapitre 6, versets 1 à 7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan, ils mangent des agneaux du troupeau. les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils se tourmentèrent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, et ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Ce texte a été écrit entre 780 et 750 avant Jésus-Christ. Et Amos était un prophète qui était du sud et qui prêchait au nord. Et dans le sud, on n'était pas aussi riche que dans le nord. En tout cas, il va avertir les gens du nord qu'ils allaient probablement être déportés s'ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient. Et l'histoire a bien prouvé que c'était exact et que les Assyriens sont venus après et ils les ont déportés. Il y a un texte dans Isaïe 29, verset 13, qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on est forcément proche de Dieu. Alors c'est déjà bien de venir, parce qu'on se dit, tiens, ça peut être, je vais être de nouveau secoué, de nouveau remis en question, et je crois que c'est très important à chaque fois qu'on vient ici. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Comment il veut nous parler? Comment être fidèle à son alliance? Et être fidèle à l'alliance, ça veut dire à la fois avoir confiance en Dieu et à la fois être animé par une justice sociale. À la fois être concerné par ce qui se passe autour de nous. Vous vous rappelez ce chant que Pierre Guillaume aime bien? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça que nous demande le Seigneur, et c'est tout simple. Et pourtant, c'est tellement difficile. Alors, l'archéologie, dans ces temps-là, a apporté des précisions très intéressantes. C'est qu'au Xe siècle, les maisons étaient toutes sur le même modèle et représentaient des trains de vie tout à fait identiques. Au 8e siècle, au contraire, on distingue très bien des quartiers riches et des quartiers pauvres. Fini le bel idéal de la Terre Sainte. Et vous vous rappelez, lorsque les Juifs ont commencé à venir en Israël, en tout cas, dans un premier temps, ils ont installé des kibbutz, et il y avait quelque chose de magnifique. Il y avait des gens du monde entier, qui n'étaient même pas juifs, mais qui étaient vraiment attirés par cette philosophie qui consistait à tous avoir le même salaire, qu'on soit ouvrier, qu'on soit architecte, qu'on soit avocat, tout le monde avait le même salaire, on travaillait tous ensemble dans un même lieu, et c'était quelque chose d'assez extraordinaire, c'était une espèce de socialisme parfait. Malheureusement, ces choses ont disparu de cette terre. Il y a peu de kibbutz qui encore continue à avoir cette espèce de rigueur par rapport à ce que chacun avait. Le peuple juif avait eu cette idée lorsqu'ils sont restés, on était avec David, en ce qui concerne leur voyage pendant 40 ans dans le désert, où finalement ils avaient la manne tous les matins, mais pas plus. Et ceux qui voulaient en prendre un petit peu plus en disant on ne sait jamais, cette manne pourrissait pendant la nuit, donc ça ne servait à rien d'en prendre un peu plus. Il fallait prendre juste ce dont on avait besoin, et puis le week-end, pendant le Shabbat, on prenait un tout petit peu plus pour un week-end, et le Seigneur accordait qu'on puisse se nourrir comme ça. Mais il y avait une espèce d'équité. Et pendant ces 40 ans, ils ont travaillé ça ensemble, en étant unis les uns aux autres, et sans que chacun cherche à être supérieur à l'autre. Et le texte sur lequel nous allons nous appesantir, c'est ce texte, l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. » Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il ouvre ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les retrouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, et ils ne seront pas convaincus. » Alors, c'est un texte particulier. Jésus ne dit pas que c'est une parabole. Certains théologiens vont dire « c'est une parabole ». Mais finalement, on n'en sait rien. Jésus ne le présente pas comme ça. En tout cas, il fait appel à des histoires qui étaient déjà racontées en Égypte. Et puis après, les rabbins ont raconté d'autres histoires qui étaient moins troublantes que celles, en tout cas, de celles que Jésus nous communique. On ne dit rien par rapport aux riches, comment ils s'appelaient. Ça nous fait un peu penser à ce pharaon qui n'avait pas de nom. Autrement dit, le riche... Ça peut être chacun d'entre nous. Et ce riche-là était vêtu de pourpre et de fin lin. Et le pourpre qui est rouge, a été donné au roi. Et le fin lin, c'était de ce tissu qui était habillé le grand prêtre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui éventuellement était de la classe sacerdotale. En tout cas, quelqu'un d'extrêmement riche. On ne dit pas qu'il était mauvais non plus. Et la preuve en est, c'est que plus tard, lorsqu'il est là-haut, dans la fournaise, il demande à ce que Lazare vienne prévenir ses frères, parce qu'il dit si, au moins qu'il puisse être averti, qu'il ne peut pas vivre comme j'ai vécu. On ne dit pas donc qu'il était mauvais, on dit simplement qu'il était tellement pris dans tout ce qu'il faisait, dans toutes ses habitudes de festins somptueux, qu'il en avait négligé le pauvre qui était là dehors. Il ne l'avait peut-être jamais remarqué. Comme nous aussi, lorsque nous marchons dans la rue, nous ne remarquons pas ceux qui sont en détresse. Ou alors on fait semblant de ne pas les regarder. Je me rappelle un jour être allé faire la manche avec une dame. Et j'avais mon après-midi, j'étais en troisième année de médecine. Et puis je m'assois à côté d'elle, et puis on a fait la manche ensemble. Elle avait son petit chien, son fils au milieu. Et elle me disait, tu vas voir comment les gens font. Alors elle me décrivait tous les gens qui passaient. Tu vois, celui-là, il m'a remarqué. Il nous a remarqué. Mais il va faire un détour pour ne pas nous regarder. Et elle décrivait les uns après les autres. Et je lui dis, oh là là, qui suis-je moi quand je suis debout et quand je marche à côté des gens? Est-ce que je les regarde? Est-ce que je les évite? Est-ce que je suis trop pressé? Alors, depuis ce jour-là, je me force au moins à les regarder dans les yeux. À leur dire bonjour. Je n'ai peut-être pas rien à donner. Parfois, je ne donne rien. Peut-être que j'ai des choses à donner, je ne les donne pas. Mais au moins une petite parole, au moins un regard. Parce que c'est la plupart de ces gens et dont je faisais partie avec elles juste cet après-midi sont transparents. On ne les voit pas. Et ça a été un peu l'intention de, lorsque la Belge a été créée à Lille, de se dire, eh bien, ces gens-là, on va les regarder, on va s'en occuper. Et ça a commencé comme ça, en fait, dans une paroisse comme la nôtre, qui un jour ont été, grâce à leur pasteur, sensibilisés à cette cause. Donc on ne dit pas non plus que Lazare était un type bien, c'était simplement un pauvre. Et parfois, moi, j'ai rencontré des pauvres qui sont obnubilés par l'argent, comme des riches qui sont obnubilés par l'argent. Le seul but, c'est d'avoir de l'argent, même si on est pauvre. Et on sent bien que c'est Paul Timothée qui dit que la racine de tous les maux, c'est l'argent. C'est un immense problème, l'argent. Un immense problème. La racine de tous les maux, M-A-U-X. Lazare aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table, et ça nous rappelle aussi une histoire, et ça faisait des allusions au judaïsme qui parle souvent des miettes de la table qui tombent, vous savez. Mais il ne pouvait pas s'approcher du riche, et en plus, les chiens venaient lécher ses ulcères, et le chien est un animal qui est impur dans le judaïsme. Donc on ne pouvait absolument pas laisser cette personne-là s'approcher de la table du riche, c'était absolument pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, on sait que finalement, ce Lazare devait être quelqu'un quand même de bien, parce que je crois que Dieu ne fait pas cas des pauvres qui sont méchants, enfin, c'est quand même important. Mais en tout cas, ce pauvre-là, il va monter avec les anges auprès d'Abraham. Et quelque part, le riche, lui, il a creusé sa tombe pendant sa vie. Et on va l'enterrer. Mais au séjour des morts, eh bien, ils vont être en relation avec Abraham. Et curieusement, Abraham va voir Lazare. Alors là, j'imagine pas le paradis comme ça. Je me dis, s'il y a une séparation, et elle est totalement opaque. Mais certains, a priori, auraient le privilège de pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne pourrais pas vous donner la réponse, en tout cas aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'Abraham communiquait avec le riche, alors qu'il communiquait avec Lazare? Lazare, lui, ne peut pas communiquer avec le riche, manifestement, même s'il le connaissait, d'après cette histoire. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'à la fin, lorsque le riche supplie Abraham de au moins de ce que Lazare puisse poser un petit peu d'eau sur ses lèvres qui cuisent, ou alors il demande à ce que, au moins, si lui est dans la souffrance, que ses cinq frères qui sont encore sur terre puissent être avertis que, voilà, dans la vie, il ne faut pas agir comme ça que pour soi-même, être dans un égoïsme profond. Et notre société nous enseigne à être égoïste. Elle nous enseigne à ne pas partager. C'est pour ma pomme d'abord, après le reste. Et Abraham répond à cette sollicitation. Si quelqu'un pouvait, d'entre les morts, venir prévenir mes frères, alors il se convertirait. Et Abraham répond, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, et ils ne seront pas convaincus. Et là, Luc, évidemment, a écrit son évangile après toute l'histoire. Vous savez qui c'était le compagnon de Paul. Il était lui-même médecin. Et il a écrit son évangile après. Et lorsqu'il a écrit cette phrase, il faisait évidemment allusion à Jésus. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts comme l'a fait Jésus. Ils ne seront pas convaincus. Et il y a un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Verset 38. Alors c'est Paul qui fait un discours extraordinaire à Athènes, mais qu'il a vraiment, vraiment travaillé. Il a tellement travaillé ce texte qu'il y a peu de gens qui l'ont écouté. Et puis lorsqu'ils entendirent parler d'une résurrection des morts, quelques-uns commencèrent à se moquer de lui, alors que d'autres disaient « Nous voulons t'entendre encore sur ce sujet ». C'est ainsi que Paul quitta la réunion. Quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et mirent leur confiance en Dieu. Parmi eux, il y avait Denis, membre du Haut Conseil, et une femme nommée Damaris, et d'autres encore, mais très peu de personnes. Et plus tard, Paul ira à Corinthe, et là il va prêcher le Christ mort ressuscité. Il ne va pas essayer de faire un discours impressionnant, et là des milliers de personnes vont se convertir. En tout cas, pour nous, il est important de pouvoir être de ceux qui regardons autour de nous. Et c'est un défi de tous les jours. Hier, pendant que je préparais cette étude, j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Est-ce que je peux passer chez toi ?» Et je sais que cette personne, si elle passe à la maison, ça va prendre un temps fou. Parce qu'elle va me raconter sa vie et sa détresse. J'avais des choses importantes à faire, et puis je me dis, attends, je suis en train de préparer ce texte-là, et je ne vais pas passer un peu de temps avec cette personne-là. Et puis j'ai dit, oui, viens boire un café à la maison. Et comme je l'avais prévu, effectivement, on a passé une heure et demie, deux heures ensemble. Cette personne repart, et là je reçois un coup de téléphone d'une personne aussi en détresse. Et je me dis, bon voilà, le plus important c'est ça. Le plus important c'est ça. C'est être quelqu'un demande de l'aide. Eh bien, on doit être là. Et encore une fois, c'est un défi de tous les jours, mais qu'il faut savoir absolument relever, nous les chrétiens. Certes, on est convaincu de ce à quoi on croit, mais on a un défi aussi à relever, c'est celui d'agir. Et nous allons agir, et je suis vraiment content que nous ayons ce privilège de faire cela. Je vais terminer juste avec ce texte en Matthieu 25, qui concerne le moment où Jésus reviendra dans sa gloire en compagnie de tous les anges, et qu'il siégera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et séparera les gens les uns des autres comme un berger sépare les brebis et les chèvres. Et on a vu un texte semblable dans 2 Thessaloniciens ce matin avec Pierre. Les brebis seront placées à sa droite et les chèvres à sa gauche. Puis le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, recevez votre héritage, le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez invité chez vous. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous vous êtes occupé de moi. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. Puis ceux qui ont fait la volonté de Dieu leur répondent, Seigneur, quand avons-nous vu affamé? Quand avons-nous vu donner à manger ou assoiffé? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous invité chez nous? Et quand, ayant besoin de vêtements, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et t'avons-nous rendu visite? Le roi leur dira, oui, je vous le dis, quand vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à moi que vous les avez faites. Puis il parlera aussi à ceux qui sont à gauche en disant, allez-vous-en loin de moi, vous qui êtes maudits. Allez dans le feu qui a été préparé pour l'adversaire et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'étais assoiffé et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'étais malade et en prison, où m'avez-vous rendu visite? Alors eux aussi répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou étranger, sans vêtements, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, oui, je vous le dis, toutes les fois que vous avez refusé de faire ces choses aux plus petits de ces gens, c'est à moi que vous avez refusé de les faire, ils iront au châtiment éternel, mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. C'est un défi pour nous, cela. C'est un défi pour nous. Et c'est très curieux de voir que juste avant ce texte, il parle de la parabole des talents, et vous savez qu'à la fin de la parabole des talents, il dit que il donne à celui qui a eu le qui a amassé le plus de talents, le talent qui n'avait pas que le dernier n'avait pas fait fructifier. Vous vous rappelez cette histoire? Autrement dit, il favorise le riche. C'est pas le riche qui est critiqué là-dedans. C'est que faisons-nous de notre vie? Et que faisons-nous de celui ou celle qui est à côté de nous? Et juste après, en référence aussi au texte que nous avons lu dans Amos, où ces riches sont pleins de parfums, ils se mettent du parfum partout. Et le texte qui suit, le texte de Matthieu, parle de cette femme qui a versé un parfum sur les pieds de Jésus d'une valeur d'une année de salaire d'un ouvrier moyen à l'époque. Donc vous voyez, il y a ce contraste qui est avec Jésus toujours. Il y a ce tiraillement d'un côté, on doit faire fructifier nos talents le plus possible. D'un autre côté, il faut regarder les gens qui sont autour de nous et pouvoir donner. Et le seul texte de Jésus qui se trouve dans les Actes des Apôtres et qui n'est pas dans les Évangiles dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et enfin, cette capacité qu'on peut avoir d'avoir un acte de générosité comme cette femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et les disciples qui disaient à Jésus « Pourquoi ce gaspillage ?» Essayons d'être interpellés comme j'ai pu l'être. Je suis un riche dans cette vie. Et j'espère pouvoir n'être pas de ceux qui ne regardent pas leur prochain. Et c'est certain que ces deux invitations hier me permettaient de me ressaisir. Même si je m'occupais des affaires de la maison, il était plus important, en tout cas hier, de s'occuper de ces deux personnes qui étaient en détresse. Et j'espère que ce n'est pas seulement parce que je préparais cette étude qu'il faut que je sois interpellé. Mais c'est important de partager cela avec vous ce matin, pour qu'on soit vraiment encouragé. Encouragé aussi parce qu'on va mettre en place et la richesse qu'on va recevoir de cet accueil que l'Église va faire, en tout cas pour ces jeunes qui dorment à la rue, et de faire partie de cette belle énergie. Si les chrétiens pouvaient tous se réveiller par rapport à cela, le monde serait transformé. Amen.